Patrick Paskan CV.
Merci d'être là, tout simplement. Vos textos entrent énormément. Je vais faire un petit refresh dans les prochaines minutes, puis je sais, on a lancé un concours un peu plus tôt. Faut pas s'affoler. Je vous jure que le nom de la gagnante ou de la gagnante sera dévoilé dans les prochaines minutes. Je vous avais dit qu'on allait lui parler à notre expert en politique ici dans leur CV, Jérémy Gillot, qui a accepté aujourd'hui d'aller commenter une couple de sujets, dont un qui a presque passé inaperçu. Faire un point de presse un dimanche, ça parle. Oui, Jérémy Gillot est directeur chez TAC. Il a travaillé longtemps en politique fédérale et provinciale, puis c'est un bonheur de l'accueillir ici dans leur CV. Salut Jérémy, bon lundi.
Bon lundi. Tu sais que c'est une stratégie politique de relations publiques, hein, les points de presse du dimanche.
Oui, mais là, l'affaire, Jérémy, c'est que, je veux dire, qui ne la voit plus, cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que c'était comme ça, dans l'horaire, et on pensait pas du tout que ça allait passer en deux craques quand on a choisi le dimanche pour faire un point de presse? Y a-t-il du monde qui croit encore ça?
Non, puis du côté du gouvernement, on savait que ça allait faire du bruit et on voulait que ça fasse du bruit. D'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve le plus inélégant de toute la sortie de François Legault cette fin de semaine. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut trouver des solutions à la pénurie en éducation, à mieux payer les enseignants, à convaincre les jeunes d'aller enseigner. Mais ce qui vient me faire dire que c'est inélégant, pour le moins, ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'on mette le fardeau sur ceux et celles qui dédient leur vie à l'éducation de nos enfants. On parle de dizaines de millions de dollars pour améliorer leurs conditions de travail puis leur salaire. Quand de l'autre côté, au gouvernement, l'année dernière, on a dépensé 3,5 milliards de dollars pour nous envoyer des chèques.
OK, on va recommencer à la base, parce que ça, c'est fascinant quand même en fin de semaine comme point de presse. Effectivement, François Legault a pris la parole dans les dernières heures. Ils se sont félicités quand même pour la dernière année. Bien sûr, on se félicite toujours, c'est important de le faire.
Mais dans le dos, ça fait du bien.
Oui, on s'est félicité aussi pour les ententes de principe qu'on a fait dans le milieu de l'éducation. Mais effectivement, il y a un point que tu amènes, en fait. François Legault était au centre de son trio. Tu avais une Sonia Lebel qui a été une des négociatrices avec les syndicats, et tu avais un Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Alors, il était entouré de ses deux acolytes, a fait un point de presse là, en bonne et due forme, là, avec le micro devant, les drapeaux du Québec derrière. Et effectivement, qu'une partie de ce point de presse-là qui était d'évoquer que lors du prochain budget provincial, soit le budget de la CAQ, il y aura un large déficit en raison des investissements massifs qu'on a fait et qu'on a octroyés dans le secteur de l'éducation durant les négociations de conventions collectives qu'on vient de vivre. Là, tout le monde a vécu la grève, là, puis on est encore un peu là-dedans, veut pas. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est de dire, bon, voyez-vous, Québécois, Québécoises, prochain budget qui sera largement déficitaire parce qu'on a eu à négocier avec les enseignants et ça nous a coûté cher.
Bien, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Puis ça nous a coûté cher, ça nous a coûté des dizaines de millions de dollars pour aider nos profs à mieux enseigner à nos enfants puis avoir des conditions de travail qui sont acceptables. Moi, c'est ça que ça rajoute de l'insulte à l'injure pour moi. L'année dernière, on a baissé nos impôts, ça a coûté 1,7 milliard de dollars à l'État. On a envoyé des chèques aux Québécois puis aux Québécoises. Ça a coûté 3,5 milliards de dollars.
Va pas trop vite là-dessus, c'est intéressant, Jérémy, parce que, tu sais, moi, je suis pas, premièrement, en finance, en économie, je suis pas experte,
ouais.
Surtout les dossiers là, d'économie au gouvernement, mais jasais avec beaucoup de gens dans le domaine au courant de la dernière année, puis beaucoup ont dit, justement, bon, la facilité, la première, c'est de dire... On a acheté des votes. En gâtant les gens là, sur les baisses de taxes, sur des chèques envoyés, les gens sont comme « Ah oui, la CAQ, on aime ça, c'est bon, c'est le fun, c'est de l'argent dans nos poches. » Mais on envoyait ça un peu à la va-vite, à des gens qui n'en avaient pas nécessairement besoin aussi. On a vidé beaucoup de coffres en envoyant ces chèques-là. Après des erreurs administratives assez monumentales pour moi, du genre la PCU dans le temps, au fédéral, bien sûr, mais quand même des aides provinciales.
Oui, mais ça, c'est du gouvernement fédéral.
C'est ça, comme je disais, fédéral dans le temps, mais il y a quand même aussi de l'aide provinciale qui a été octroyée à certains moments. Puis bon, on n'est pas allé chercher ceux qui en avaient abusé. Puis en envoyant ces chèques et en faisant ces baisses d'impôts-là, finalement, on a juste retardé le problème de l'inflation, puis on l'a même grossi à travers les dernières années, ce problème-là.
Bien, on a fermé les yeux, du moins, pour aller chercher du capital politique. Et à travers tout ça, là, on sort des chiffres ce matin, puis on parle du point de presse et tout ça. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on sent qu'il y a des politiciens ou même des syndicalistes qui essayent de se faire du capital politique sur ce dossier-là. En ce moment, il y a un processus qui est en cours. Il reste des fils à attacher pour ratifier l'entente avec les enseignants pour passer à travers. Et là, cette guéguerre-là de relations publiques entre le gouvernement puis les syndicats qui s'en rajoute, ça escalade tout le temps. Ça aide pas la situation. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que c'était inélégant. Laissons le processus suivre son cours puis arrêtons de faire en bon français, des stunts de relations publiques pour aller chercher de la sympathie ou pour dire que nous, on a raison, puis pas eux, pour régler le problème, puis améliorer la qualité de vie, la qualité de travail puis d'enseignement qu'on a au Québec.
Bien, la stratégie me semble un peu grossière parce qu'elle est évidente. Elle est où la subtilité dans les communications publiques? Elle est où la subtilité? Tu sais, moi, j'aime mieux me faire avoir sans m'en rendre compte, là. Si... j'aime pas l'expression, mais il y en a qui disent des fois, ben, tu sais, un petit lubrifiant, une petite vaseline, mais là, j'ai l'impression que ça nous frappe au visage à quel point c'est un peu grossier comme façon de faire. Je comprends que, oui, il y a des sommes importantes qui ont été octroyées. Il y a eu un rattrapage aussi au niveau du salaire des enseignants qui n'avait pas été fait. C'est une convention collective qui était échue depuis longtemps. D'abord et avant tout, bien, pour beaucoup d'enseignants, c'était sur les conditions de travail, ce qu'on n'a pas été capable de bien militer auprès des syndicats, puis que les enseignants sont fâchés contre leurs propres syndicats en ce moment aussi pour la bataille qui a été menée. Mais d'encore aller taper sur la tête des enseignants pour ce qui viendra dans le budget provincial. Est-ce que les gens qui nous écoutent, là, les auditeurs, est-ce que vous voyez cette stratégie-là? Est-ce que vous la trouvez bonne? Elle me semble grossière et évidente.
Bien, je peux pas parler pour tes auditeurs, mais pour moi, je ne comprends pas la stratégie du gouvernement là-dedans. Est-ce qu'on fait le pari qu'il y a une majorité silencieuse à quelque part qu'on n'entend pas? En même temps, ce syndicat-là, on se rappelle, c'est à peu près 540 000 travailleurs et travailleuses au Québec. Mm-hmm. Donc, je comprends pas le pari du gouvernement. Tout au plus que M. Drainville, il y a une bonne histoire cette semaine à raconter. Je sais pas si tu as suivi ce dossier-là, mais il y a le projet de loi 47, si je me trompe pas, qui va venir réglementer puis serrer la vis aux gens qui se font suspendre, qui ont des dossiers d'harcèlement au travail. Ils pourront plus changer de centre de service scolaire à un autre sans que leur dossier les suive. Pourquoi on n'a pas juste sorti là-dessus dimanche? C'est une bonne nouvelle.
La loi qui vise à renforcer la protection des élèves, entre autres, là, par rapport à des débordements.
Pour mieux protéger nos élèves. Oui. Pourquoi on n'est pas juste sorti là-dessus à la place de revenir mettre de l'huile sur le feu d'un dossier qui est en voie de se régler? Moi, c'est ça que je comprends pas dans tout ça.
De mettre la lumière sur autre chose que ce dit projet de loi-là qui pourrait servir justement. Il y avait un article ce matin à ce sujet-là, puis je l'ai envoyé à notre chroniqueur éducation, mais c'est la presse plus qui a titré « Parfois suspendu, rarement congédié » justement pour des enseignants qui peut-être avaient... Bon, débordé.
Le gouvernement avait une belle histoire dans son sac. Il pouvait parler de ça dimanche. Il aurait pu faire une intervention là-dessus. À la place, on a choisi de revenir taper sur la tête des enseignants. Des enseignants, moi, j'ai un peu de la misère avec ça. D'autant plus qu'on voit aujourd'hui que c'est comme un petit boomerang qui leur revient dans le front ce matin.
Mais j'ai une question pour toi. Jérémy, parce que quand je vois ça, moi, je vais me permettre, j'ai le droit de mettre une opinion au micro, tu sais, mais je trouve que c'est de la petite politique. Et bien que j'ai été derrière, en partie majoritairement, le gouvernement en place lors de la pandémie, parce qu'on vivait tous quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, c'est dur à ficeler, ça pétait de tous les bords. Dans tous les ministères, il fallait essayer de trouver des solutions par rapport à cette crise sanitaire qu'on vivait, cette pandémie-là. Mais par la suite, j'ai trouvé, qu'il y avait un manque de courage, qu'il y avait des communications faciles, grossières, comme on a vu hier, des erreurs et des échecs monumentaux, je veux dire, juste le revirement du troisième lien ici à Québec, le rififi qu'on a entre le provincial et la mairie de Québec, plus parce que je ramène ça à la capitale nationale. Cette petite politique-là que j'observe me fait peur quant à la gestion de gens qui sont au pouvoir d'un gouvernement. J'ai l'impression qu'on joue à faire de la politique, puis peut-être que tu vas me trouver trop critique, mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'on joue à faire de la politique, puis je sais que je vais insulter des gens, là.
Bien, mais je te trouve pas trop... Je suis totalement d'accord avec toi. On dirait qu'il manque une ligne directrice à ce gouvernement-là. Je comprends que c'est une coalition, mais moi, je dis souvent en politique, quand tu prends des décisions basées sur tes fondamentalement, là, sur les valeurs dans lesquelles tu crois, tu ne te tromperas pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais on va pouvoir prédire ce que tu vas faire à une situation d'avance, parce que les gens vont avoir été habitués à c'est les valeurs que ce parti-là véhicule et c'est là qu'ils vont aller.
Mais là,
a l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice dans leurs décisions.
On dirait qu'on veut plaire à tout le monde pour être certain d'être élu, mais ça, c'est ma vision extérieure. Là. Et là, j'ai un puissant problème avec ça. Souvent dans la vie, puis même dans les médias, on dit « reste authentique et fidèle à qui tu es, là, et vulnérable et à l'écoute des opinions diverses, parce que de toute manière, tu ne plairas pas à tout le monde. » Et si tu essaies de plaire à tout le monde, c'est là où ça ne fonctionnera jamais. On ne croira pas en toi. Et c'est un peu la prétention qu'on pousse ce matin en ondes ensemble, mais le gouvernement de la CAQ, moi, dans les décisions, les prises de parole, semble juste vouloir se faire réélire. Puis pour moi, c'est ça, manquer de courage politique en ce moment-là. Il y a tellement des enjeux importants.
Il y a un dicton qui dit « le rôle des autres est déjà pris, joue ton rôle à toi
». J'adore ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu le chef? C'est-tu le manque de ficelage entre les ministères? C'est-tu le fait qu'on a pris trop d'écart entre le rattrapage qu'on avait à faire dans les dernières années et le momentum d'aujourd'hui? C'est-tu le manque de finances? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Un peu toutes ces réponses. Moi, je trouve que ce qui ferait du bien à ce gouvernement-là, c'est peut-être un petit remaniement ministériel, de changer, pas nécessairement de changer les joueurs clés, mais de positionner les joueurs clés dans d'autres portfolios. Il y a des gens qui ont ces portfolios-là depuis 6 ans maintenant. Ça fait longtemps. Peut-être de faire un petit brassage de cartes, ça ferait du bien.
Je suis pas d'accord avec toi. C'est là que je veux t'entendre plus, parce que moi, vois-tu, je verrais ça comme un problème. Je me dis, oh non. Dans des ministères tellement chauds, en plus, il faut pas recommencer à zéro avec une nouvelle personne qui va devoir apprendre comment ça se fait, ça se gère, apprendre à connaître sa nouvelle équipe, revoir des dossiers, les relire. En vrai, moi, je suis sceptique quant à cette solution-là. C'est intéressant de t'entendre.
Moi, j'aime ça, des remaniements ministériels dans certains dossiers, parce que des fois, quand on est trop le nez collé dans notre dossier, on ne voit pas. Les ministres, ce n'est pas nécessairement des experts de leur secteur. Les ministres, c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions basées sur l'information qu'on leur donne.
Un genre de gestionnaire, oui.
C'est un gestionnaire. On lui arrive avec des chiffres, avec des documents de décision. Il rencontre des acteurs du milieu et là, il va trancher, il va dire à son ministère, on s'en va dans cette direction-là. Mais quand ça fait trop longtemps que tu es dans ton bureau de ministre, puis que tu te fais influencer par tes fonctionnaires, puis la machine, puis la fonction publique, bien là, des fois, tu vas peut-être avoir tendance, tu as un lien de complicité qui s'est développé avec ton équipe de fonctionnaires, etc. Et des fois, tu vas avoir tendance à suivre trop tes fonctionnaires. Ou des fois, il va y avoir une animosité qui s'est développée avec ton équipe ministérielle. Et là, tu vas suivre trop tes parties prenantes, puis les entreprises, les organisations qui viennent te voir. Bien, des fois, un petit changement, un petit brassage de cartes, ça fait du bien parce que ça amène une perspective nouvelle. Je prends par exemple la ministre de l'Habitation. On a toujours l'impression qu'elle prend du bord des propriétaires, puis on a jamais l'impression qu'elle prend en compte que les locataires y vivent. Mais d'amener une nouvelle personne dans ce ministère-là, ça peut peut-être faire du bien. Même chose dans d'autres ministères. C'est pas de changer des figures de proue, mais c'est peut-être de faire une petite rotation, d'envoyer tes joueurs dans d'autres dossiers que tu identifies clés pour les enjeux à venir.
En ce moment, le 19 février 2024, toi, tu crois que ce serait peut-être une bonne solution que de revamper... À la fin de la session,
OK. Mettons la session passée, là, mais à la fin de la session, il faudrait un petit... Parce que là, on a l'impression qu'ils ne sont jamais capables de sortir d'une crise.
Mais moi, j'ai l'impression que si on fait ce ménage-là puis ce switch-là, on va perdre du temps encore plus dans un genre de gouvernement désorganisé. J'aime ça qu'on brainstorm ensemble ce matin, Jérémy.
C'est des conseils gratuits pour le gouvernement. Ils
prendront ce qu'ils veulent. OK, mais toi, tu vois là, qu'en ce moment, ce serait peut-être plus positif.
Ben, c'est parce que là, on a l'impression qu'ils s'en vont nulle part. Après ça, c'est sûr que ça prend... M. Legault disait, on va retrouver notre boussole. Ils n'ont pas retrouvé leur boussole en 2024.
Non, ils ont perdu le nord, là.
Puis, c'est ça, à un moment donné, ça va prendre... Peut-être, est-ce que c'est de recentrer les communications au bureau du premier ministre pour s'assurer que tout soit uniformisé, comme pendant la COVID? Mais il va falloir qu'ils trouvent la recette magique, parce que deux ans en politique, c'est court, mais ça peut être très long aussi.
Oui, les journées peuvent être longues aussi, par contre, ces temps-ci, j'ai l'impression. Hey, Jérémy Gio, salutations distinguées, comme dit un certain auditeur sur Twitch.
Bien, merci beaucoup.
À la semaine prochaine, au revoir. Jérémy Gio, qui est expert, bon, bien sûr, en communication, je veux dire, il est directeur chez TAC, mais il fait aussi, augure d'un CV très étoffé en politique fédérale et provinciale pendant plusieurs années. Connaissance approfondie de tout ça et bon débatteur dans ses positions. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme solution, vous? Est-ce que vous êtes plus du style Jérémy Gio, on fait un ménage là, et on change les ministres de ministère, ou encore on conserve ça comme en ce moment, puisqu'il y a déjà le feu un peu partout dans chacun des ministères, puis vous voyez ça comme une petite perte de temps, un peu comme de mon côté. Alors, on les sort du nez devant l'écorce. On enlève leur nez qui est pris devant l'écorce, ou encore on les laisse travailler de fond encore dans ce qu'ils ont commencé. On n'aura pas la science infuse, mais on peut en discuter, ça. Hein? Oui, ça, c'est sûr qu'on peut faire ça. Merci à Jérémy Gio, qui est avec nous une couple de fois, oui, par mois, ici à Boulevard 102.1, dans leur CV. Obsolète et vulgaire machin dans vos oreilles.